Bonjour à vous tous. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, il y a deux semaines, j'avais Étienne au bout du fil. Depuis un petit moment, il a découvert mon numéro de mobile, de portable. Alors, il disait qu'il allait assister au mariage de Benjamin et de Lucie. Il m'a demandé si je pourrais prendre la prédication de ce dimanche. Et voilà, c'est pourquoi je me trouve devant vous aujourd'hui. Quel privilège d'avoir la parole de Dieu entre nos mains, de pouvoir lire et de la méditer. Nous voulons prier que Dieu parle à nos cœurs et je propose juste un petit moment de recueillement. Seigneur, nous voulons nous placer devant toi aujourd'hui parce que nous avons tant besoin de ta présence, tant besoin de savoir que tu es là à nos côtés. Et nous voulons te demander de briser tout obstacle à ta présence, à l'œuvre de ton esprit. Et nous voulons te dire merci. Merci de nous accompagner. Au nom de Jésus. Amen. J'aime bien le quoi de neuf, mais je l'aime moins aujourd'hui. Parce qu'il m'a forcé à dévoiler un petit peu ce que je vais dire. Mais je vais partager quelque chose qui m'est arrivé. Et puis je vais parler d'un homme en prison. Jean-Marc, il m'a envoyé le thème de la première partie du culte. Il m'a dit que ça sera « Dieu ne nous abandonne pas ». Donc j'ai répondu « Ça me convient très bien parce que je vais parler d'un homme en prison ». Il y a quelque temps, j'ai participé à une journée de ressourcement. C'était Mike Evans, je pense qu'il est très connu. Et il allait aborder le thème « Le silence de Dieu ». Et surtout, les silences de Dieu face au mal. Quand on regarde nos écrans de télévision, il y a tellement de choses qui nous bouleversent. Des injustices, la souffrance, la détresse. Et parfois, nous avons cette impression que Dieu garde le silence. Et dans cette journée, à la fin de la matinée, on s'est retrouvés dans de petits groupes et ils nous ont donné 5 questions. Et ils nous ont donné une quinzaine de minutes pour aborder ces questions, pour trouver les réponses. Et je peux vous dire que nous avons abordé une seule question. Et même là, à la fin, je ne savais pas quelle était la réponse. Et j'ouvre une parenthèse parce que ce sujet est vaste. Vaste. Et depuis ce moment-là, je réfléchis à ce thème. Ça travaille dans mon cœur, je regarde, je cherche. Mais donc, comme je vous disais, on était dans notre groupe et on a commencé à parler des doutes. Et je me suis lancé parce que bon, ça peinait à démarrer, donc c'est toujours dangereux. Je me suis lancé. Et je disais que je pensais que les doutes faisaient partie de notre parcours. Et que si nous avons des doutes, ce n'est pas parce que nous n'avons pas confiance en Dieu, que nous n'avons pas la foi, mais cela nous force à nous remettre en question, à nous remettre à l'écoute de Dieu. Et j'avais donné un petit exemple à cette époque. On avait l'appartement de la maman de Joël qui est décédée en 2012. Et malgré tous nos efforts, nos prières, on n'a pas trouvé d'acheteur pour cet appartement. Et je disais à Dieu, tu sais, on ne peut pas garder cet appartement, il faut le vendre. Mais c'était comme si c'était le silence. Et je commençais à me poser des questions, mais je disais, mais Dieu, où est-ce que tu es dans tout cela? Pourquoi tu ne réponds pas? Et alors, il y avait une autre personne dans ce groupe qui, on peut montrer la question parce que je dois partager la question avec vous. Décris un temps où tu as expérimenté le silence de Dieu dans ta vie. As-tu éprouvé des doutes? Comment les comprendre à la lumière de Jacques 1, versets 6 et 7? Et voilà, cette personne en face de moi m'a regardé, elle a dit, il faut lire Jacques chapitre 1, versets 6 et 7. Et nous avons le verset, je crois. Je l'ai ici quelque part. Jacques dit, mais il faut qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable à une vague de la mer que le vent soulève et pousse d'un côté ou de l'autre. Un tel homme ne doit pas s'imaginer qu'il recevra quelque chose du Seigneur, car il est indécis et incertain dans tout ce qu'il entreprend. Et j'ai vu ces paroles. Jacques dit que, car celui qui doute est semblable à une vague de la mer, que le vent soulève et pousse d'un côté ou de l'autre. Et j'ai vu dans le regard de cette personne, c'est comme je me sentais un peu visé que, dans la vie chrétienne, il n'y a pas de place pour les doutes. Et comme si c'était tranché. Et je peux vous dire que depuis des semaines, j'avais cette question devant moi comme suspendue, comme un vrai défi. Et je crois que le grand défi est comment comprendre ces paroles dans cette lettre de Jacques. Comment les mettre dans le contexte. Et vous voulez que je vous donne la réponse, mais je ne vais pas le faire. Je ne sais pas si je suis encore prêt à vous donner la réponse. Mais de toute façon, vous aurez les réponses parce que l'année prochaine, dans nos groupes de maison, on va regarder le livre de Jacques. Donc, on aura l'occasion vraiment d'approfondir la chose et de regarder. Mais peut-être vous n'êtes pas concerné par cette question. Peut-être pour vous, la vie est tranquille, comme on dit là, un long fleuve tranquille, le soleil brille, il n'y a pas de problème. Mais je ne crois pas. Qui parmi nous n'a pas passé par un moment de doute? Je ne vais pas demander que vous levez la main, hein, mais qui n'a pas passé par un moment quand le ciel se couvre de nuages et Dieu ne semble pas répondre à nos cris. Où on se retrouve par terre, on a du mal à se relever, à reprendre la marche, à faire confiance à Dieu. Ce Dieu qui nous aime tant, mais il ne semble pas agir, répondre à nos questions. Et voilà, aujourd'hui, je vais vous amener quelque part d'autre dans la Bible. Vous le savez déjà, c'est dans le coin de neuf. Et c'est ce passage de Luc 7. Et nous avons ici, tout d'abord, je l'ai divisé en trois. Nous avons cette délégation et la question étonnante de Jean. Nous allons entrer ici dans le vif du sujet. Parce que nous avons ici un homme qui est en détresse. Jean est en prison, c'est Matthieu qui nous le dit. Luc ne le dit pas, mais Jean est en prison. Et je pense que les prisons de cette époque ne peuvent pas être comparées à nos maisons d'arrêt d'aujourd'hui. Je n'étais pas dans une prison, mais je vois sur les écrans de télé qu'il y a quand même un certain confort. Mais je pense que Jean, il touche le fond. Lui qui aimait le désert, les grands espaces, le miel sauvage et les sauterelles, il se trouve enfermé entre les quatre murs de sa cellule. Il n'avait pas l'Internet, il n'avait pas la télé, il n'avait pas la radio, mais il entend des choses magnifiques au sujet de Jésus. Et il décide d'envoyer une délégation pour poser une question à Jésus. Donc, je pense qu'il faut lire ce petit passage tout au début. Donc, verset 18, « Les disciples de Jean racontèrent tout cela à leur maître. Jean appela deux d'entre eux et les envoya au Seigneur pour lui demander, « Es-tu le Messie qui doit venir ?» Ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? Quand ils arrivaient auprès de Jésus, ils lui dirent, Jean-Baptiste nous a envoyés pour te demander, es-tu le Messie qui doit venir? Ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? Au même moment, Jésus guérit beaucoup de personnes de leur maladie, de leurs maux. Il les délivra d'esprits mauvais et rendit la vue à de nombreux aveugles. Si vous regardez avant ce texte, c'est intéressant parce que nous voyons deux miracles que Jésus a fait. Nous avons tout d'abord cet officier romain, un non-juif, qui a fait appel à Jésus pour que Jésus vienne guérir son serviteur. Et Jésus se met en route et qu'est-ce qui se passe? Il envoie quelques personnes pour lui dire « Seigneur, ne viens pas chez moi. Je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Et Jésus est étonné. Nous lisons, quand Jésus entendit ces mots, il admira le capitaine. Il se retourna et dit à la foule qui le suivait, « Je vous le déclare, je n'ai jamais trouvé une telle foi, non, pas même en Israël. » Et tout de suite après, nous avons un autre miracle qui se passe. Il y a la veuve de Nain. Jésus va entrer dans cette ville et il croise ce cortège. C'est une veuve dans une grande douleur parce qu'elle vient de perdre son fils unique. Et cette femme avec ses voisins, ses amis, se dirige vers le cimetière pour enterrer ce fils. Et nous lisons que Jésus était pris de pitié pour elle. Il dit, ne pleure pas. Puis il s'avança, toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent. Et Jésus dit, jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. Le mort se dressa et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Il louait Dieu en disant, « Un grand prophète est apparu parmi nous. » Donc Jean, il entend toutes ces choses et il envoie cette délégation avec cette question, « Est-ce que tu es le Messie ?» Je crois qu'il faut s'arrêter un petit moment autour de cette question. Je vois Jean dans sa cellule, je ne sais pas. Est-ce que je me suis trompé? Est-ce que... Enfin, je ne sais pas. Je vois Jean. Est-ce que j'ose dire ce matin que Jean commençait à avoir des doutes? Qu'est-ce que cela veut dire, avoir des doutes? J'ai regardé dans le dictionnaire. Et c'est être dans la certitude sur la réalité d'un fait. Ou sur l'exactitude d'une déclaration. Ou peut-être un manque de confiance. Je ne sais pas. Ce mot doute, il est là. Et cette question tourne autour de l'identité de Jésus. Qui est-ce qu'il est vraiment? Et c'est à chacun de nous de poser cette question. Tout le monde doit poser cette question. Qui est vraiment l'identité de cet homme? Parce que notre avenir dépend de la réponse. Et après, pas seulement de la réponse, mais de notre engagement. Je pense que vous avez entendu parler de C.S. Lewis. Il a écrit beaucoup de choses. Il a dit que cet homme, dans tout ce qu'il a dit Jésus, soit qu'il dit vrai, soit c'est quelqu'un qui a perdu la tête. Il est fou. Il y a deux possibilités. Soit ce qu'il dit est vrai, soit c'est complètement à côté de la plaque. Et nous devons poser cette question. Qui est vraiment Jésus? Vous savez, notre adversaire, il a des armes redoutables et une de ses armes, c'est le doute. S'il a l'occasion de semer le doute dans nos cœurs, il le ferait. Il vise à miner notre confiance dans ce Dieu qui nous aime tant. Et je peux m'imaginer que le problème numéro un pour Jean, c'était le silence de Dieu. Silence face à cette injustice qu'il subissait. C'était une souffrance être dans cette prison. Il y avait la solitude qui pesait sur lui. Une souffrance physique, morale, émotionnelle. Et là, on devient fragile. On devient vulnérable. L'ennemi vient avec force pour nous déstabiliser. Et n'oubliez pas que Jean, il faisait partie du peuple de Dieu. Je dois avancer, mais ils attendaient le Messie. Mais la pensée de cette époque, c'était que Jésus, le Messie, enfin le Messie parce qu'ils savaient, est-ce que c'était Jésus? Oui, bon, nous le savons, mais ils s'attendaient que le Messie les libère des Romains, de ce joug romain. Et nous savons que le ministère de Jean était puissant. Il a appelé les gens à se repentir, à changer de vie, changer de comportement. Et il avait un témoignage très clair au sujet de Jésus. Il a dit, voici l'agneau de Dieu. Quand il a vu l'Esprit de Dieu descendre sur Jésus, il a compris parce que Dieu lui avait révélé que c'était le Fils de Dieu. Je ne veux pas me prolonger là, mais je pense que Jean attendait dans sa prison que ça bouge. Il avait annoncé le jugement, mais rien ne se passait. Il languissait dans sa prison. Si Jésus était le Messie tant attendu, qui avait le pouvoir de mettre fin à cette épreuve, pourquoi il ne le faisait pas? On va avancer. Nous avons cette réaction, cette réponse de Jésus. Et si je suis étonné de la question de Jésus, je suis aussi étonné de la réponse de Jésus. Si je suis étonné de la question de Jean, je suis aussi étonné de la réponse de Jésus. On va le lire ensemble. Puis Jésus répondit aux envoyés de Jean, « Allez raconter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris. Les sourds entendent, les morts reviennent à la vie. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui n'abandonnera pas la foi en moi. » Parfois, nous voulons que Dieu nous dise oui ou non. Et Jésus ne le fait pas. Il ne dit pas à Jean oui ou non, mais il dirige Jean vers cette prophétie d'Ésaïe. Et je pense que c'était juste la parole que Jean, dont il avait besoin, dans cette épreuve. Jésus, il aurait pu dire, Jean, je ne m'attendais pas que tu me poses cette question. Tu as oublié le jour où je me suis fait baptiser dans le Jourdain avec toi. Ce qui est formidable, c'est que Jésus ne lui fait pas de reproche. Et je pense que si Jésus avait un téléphone portable, il pouvait juste envoyer un SMS à Jean. Et c'est cette parole qui va exploser dans le cœur de Jean, qui va le porter jusqu'au bout de cette épreuve. On va continuer. La troisième partie, c'est l'estime, l'affection de Jésus à l'égard de Jean. Il faut lire ce passage. « Quand les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à parler de Jean à la foule en disant, « Qu'est-ce que tu allais voir au désert? Un roseau agité par le vent? Non? Alors, qu'est-ce que tu allais voir? Un homme vêtu d'habits magnifiques, mais ceux qui portent de riches habits et vivent dans le luxe se trouvent dans les palais des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et même bien plus qu'un prophète. Car Jean est celui dont l'Écriture déclare, « Je vais envoyer mon messager devant toi, dit Dieu, pour t'ouvrir le chemin. » Je vous le déclare, ajoutait Jésus, « Il n'est jamais né personne de plus grand que Jean. Pourtant, celui qui est le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Tout le peuple et les collecteurs d'impôts l'ont écouté. Ils ont reconnu que Dieu est juste. Ils se sont fait baptiser par Jean. Mais les pharisiens, les maîtres de la loi, ont rejeté ce que Dieu voulait pour eux et ont refusé de se faire baptiser par Jean. Jésus dit encore, « À qui puis-je comparer les gens d'aujourd'hui ? À qui ressemblent-ils ? Ils ressemblent à des enfants assis sur la place publique, dont les uns crient aux autres, « Nous avons joué un air de danse sur la flûte, mais vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des chants de deuil, et vous n'avez pas pleuré. » En effet, Jean-Baptiste est venu, il ne mange pas de pain et ne boit pas de vin, et vous dites, il est possédé d'un esprit mauvais. Le Fils de l'homme est venu, il mange et boit, et vous dites, voyez cet homme qui ne pense qu'à manger et à boire du vin, qui est ami des collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation. Mais la sagesse de Dieu est reconnue comme juste par tous ceux qui l'acceptent. Les disciples de Jean prennent le chemin de retour tout de suite. Je me dis qu'ils ont tort. Ils auraient dû rester un petit peu, ces disciples de Jean, pour entendre ces belles paroles de Jésus au sujet de Jean. Ils ont raté quelque chose. Jésus ne peut pas s'empêcher de parler. Son cœur est rempli de paroles merveilleuses. Et cette question de Jean n'a pas diminué l'estime que Jésus a pour Jean. Il n'y a aucune trace de reproche dans ses paroles. Il sait que Jean-Baptiste est un homme de valeur, de courage, qui ose dire la vérité. Un homme qui va remplir sa mission, qui va aller jusqu'au bout de son engagement. Qu'est-ce que je peux retenir de ce discours de Jésus? Je retiens le verset 28. Jésus dit, je vous le déclare, ajoute à Jésus, il n'est jamais né personne de plus grand que Jean. Pourtant, celui qui est le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. C'est encore un verset qui n'est pas facile à comprendre. Mais je retiens la première partie de ce verset. Je vous le déclare, ajoute Jésus, il n'est jamais né personne de plus grand que Jean. Je me pose la question, qu'est-ce que Jésus allait dire de moi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il allait dire de vous dans votre engagement? Dans votre marche chrétienne. Après cet épisode, il semble que Jean s'éclipse. Nous n'entendons plus rien de lui jusqu'au moment où il est exécuté dans sa cellule. Les voix de Dieu sont parfois mystérieuses. Parfois, les silences de Dieu sont mystérieux. Et je voudrais juste poser la question, mais qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce passage ce matin? Attention au jugement hâtif. Très facile. On veut juger. On va porter un jugement. Jésus ne l'a pas fait. Nous pouvons nous étonner de cette question de Jean, mais n'oublions pas que c'est un homme en détresse. Un homme dans une grande souffrance. Nous ne savons pas ce qui nous attend dans cette vie. Mais nous savons que Dieu ne nous abandonne pas. Ça, c'était le thème de la première partie de ce culte. Il peut nous porter jusqu'au bout de notre marche. Je sais que ma belle-maman, elle a passé par une épreuve très dure à la fin de sa vie. Je pense que quand elle est allée aux soins palliatifs, elle a compris. Mais c'était une chrétienne fervente. Elle s'attendait à ce que Dieu agisse pour la guérir, mais c'était le silence. Et elle a passé par un moment de révolte. Elle se disait, mais Dieu, où est-ce que tu es dans tout cela? Je ne te vois pas. Mais avant sa mort, il y avait de nouveau, elle est revenue. Elle avait cette douceur, cette confiance qui était là de nouveau. Et la deuxième chose, ne surestimez pas nos forces. Je pense à cette parole de Paul. Par conséquent, celui qui pense être debout, prenne garde de ne pas tomber. Je pense à ces paroles de Jésus. « Simon, Simon, écoute, Satan a demandé de pouvoir vous passer tous au crible comme on le fait pour purifier le grain. » Satan a demandé de pouvoir vous passer tous au crible. Mais j'ai prié pour toi, afin que la foi ne vienne pas te manquer. Et Pierre lui-même, il va nous dire que les épreuves, ça nous fortifie, ça purifie notre foi. Ce n'est pas quelque chose de négatif. Et après, je dirais, venons à Dieu avec nos questions, avec nos cris de détresse. J'aime beaucoup le psaume 13. Seigneur, jusqu'à quand persisteras-tu à m'oublier? Jusqu'à quand refuseras-tu de me voir? Jusqu'à quand devrais-je me faire du souci et me ronger de chagrin chaque jour? Jusqu'à quand mon ennemi aura-t-il l'avantage? Seigneur mon Dieu, regarde et réponds-moi. Rends-moi un peu de force, sinon mes yeux se fermeront pour le sommeil de la mort. Parfois, dans nos épreuves, on a du mal à s'exprimer. On ne trouve pas les mots. Et nous pouvons prendre les psaumes pour exprimer notre douleur à notre Père Céleste. Et Dieu, il nous accueille et il écoute. Peut-être il n'y aura pas de réponse oui ou non à nos questions, mais Dieu ne reste pas sourd à nos cris. Il est capable de diriger nos pensées vers les promesses qui vont nous porter jusqu'au bout. Et quatrièmement, ne sous-estimons pas l'amour que Dieu porte à ses enfants. Oui, cette délégation de gens, ils auraient dû rester plus longtemps pour écouter ces belles paroles de Jésus. Le diable veut nous faire douter vraiment de la bonté de Dieu à notre égard. Et nous avons besoin de nous confier vraiment dans ce Dieu qui est merveilleux, qui est plein de compassion, plein d'amour. Et la cinquième chose, sachant que parfois Dieu nous sauve dans l'épreuve et pas de l'épreuve. Je ne sais pas où j'ai entendu ces paroles, mais c'est là dans mon esprit. Parfois Dieu nous sauve dans l'épreuve et pas de l'épreuve. Et Dieu n'a pas besoin de toujours répondre à nos questions. Il est grand, nous sommes petits. De toute façon, nous ne pouvons pas tout comprendre. Et Dieu, il a ses raisons. Je pense que quand il nous laisse dans l'épreuve, c'est pour notre bien, pour que notre foi est purifiée, pour que nous devenions plus forts. Et finalement, pour terminer, gardons le cap. Les yeux fixés sur Jésus. Il ne va pas nous décevoir. C'est ce que l'Épître aux Hébreux nous dit. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Comme Estelle a dit, ne lâchons pas. Marchons en avant. Tu es là. On peut lui faire confiance. Il nous garde dans sa main. Et je vous laisse ces pensées. J'espère que ça pourrait vous accompagner dans cette nouvelle semaine. C'est vrai que dans la vie, nous ne savons pas ce qui nous attend. Mais nous savons que notre foi est dans ce Dieu puissant qui peut nous porter jusqu'au bout. Donc, merci.